Bonjour David, bonjour à tous. Une bonne nouvelle pour le ferroviaire. La ligne Thouars-La Roche-sur-Yon va faire l'objet d'une rénovation indispensable pour la continuité du service. Plus de 15 ans après son lancement, le projet éolien Saint-Thomas-de-Bobigny est opérationnel et a été inauguré hier matin. C'est un rendez-vous très attendu et par les employeurs et par les demandeurs d'emploi. Le job dating du bocage bressuré aura lieu le 17 octobre à Boucapaule. Melting Pot, quatrième du nom ce samedi dans l'enceinte du château de Bressuire. Un festival qui, année après année, prend de l'ampleur. Quant à la météo, les éclaircies seront au menu de notre après-midi. Hier, s'est ouvert à la cour d'assises des Deux-Sèvres à Niort le procès de Joachim, âgé aujourd'hui de 24 ans, le meurtrier d'Élodie Multon, cette infirmière de 30 ans du centre de psychothérapie de Thouars, mère de deux enfants, poignardée le 13 février 2020 sur le parking de l'établissement. Cette première journée hier s'est intéressée à la personnalité de l'accusé, à l'enfance difficile et chaotique sur fond de violence, souffrant de troubles graves du comportement. Placé dès l'adolescence dans différentes structures, il semblerait que son geste meurtrier ait été motivé par la décision d'un médecin de le placer en hospitalisation sous contrainte, ce qu'il n'aurait pas supporté. Le procès se poursuit cette fin de semaine. Le verdict est attendu pour demain. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Les soutiens se multiplient avant le second tour des législatives anticipées. Dominique Payet appelle à voter Philippe Robin. L'ancien député de 1993 à 2007 se range en effet derrière le candidat de l'Union des droites, en l'occurrence le RN et les LR version Ciotti. Ancien maire de Nueil, Dominique Payet a représenté la voix de notre Nord-de-Sèvres à l'Assemblée nationale sous les couleurs de la droite enracinée, entreprenante et républicaine, pour reprendre les termes du communiqué diffusé hier après-midi par Philippe Robin. Jérôme Baloge apporte lui son soutien à Delphine Bateau, candidate écologiste et républicaine face au RN, représentée sur la deuxième circonscription par Mélodie Garraud. Nous ne partageons probablement pas les mêmes opinions sur tout, mais nous partageons les mêmes valeurs, écrit le maire de Niort et président de l'Aglo à propos de Delphine Bateau. À Cholet, le second tour opposera le député sortant de la majorité présidentielle, Denis Massiglia, arrivé en tête dimanche dernier, au maire de Cholet, Gilles Bourdoulex, divers droites, soutenu par le RN. Sans doute pour élargir son audience, ce dernier a fait effacer sur ses tracts électoraux et affiches la flamme représentant le Rassemblement national et le logo des Républicains. La voie ferrée entre Thouars, Bressuire et La Roche-sur-Yon sera réhabilité. Menacée de fermeture il y a quelques années, cette ligne SNCF Saumur-les-Sables via Thouars, Bressuire et La Roche est sauvée. Sa fréquentation de 200 voyageurs par jour, soit 30 par train, est en légère hausse, ce qui rassure quant à son avenir. Pour sa part, le succès du train des plages a transporté 27 000 estivants en 2023, un succès dû aux tarifs familiaux qu'il s'apprête à renouveler pour son 12e été qui commencera ce samedi. Côté négatif, cette ligne est en très mauvais état, mais cela devrait changer, comme le confirme le Thouarsais Emmanuel Charret, élu régional qui suit le dossier rail et le financement par la Nouvelle-Aquitaine. Il est interrogé par Dominique Hérault.
Des travaux ont été actés dans le CPER 2023-2027 par les deux régions, Nouvelle-Aquitaine et Pays de Loire. 93 millions pour Pays de Loire et 35 millions pour Nouvelle-Aquitaine. Les coûts des travaux, c'est 212 millions. Et ces travaux concernent particulièrement le tronçon entre Bressuire et La Roche-sur-Yon. C'est une voie qui est en très mauvais état. Les trains, sur certaines portions, circulent à 30 km/h. L'idée là pour les régions, c'est de surtout pas stopper la circulation des trains, de faire quelques aménagements pour permettre une circulation même à vitesse réduite, et puis ensuite d'engager des travaux beaucoup plus importants. On espère une régénération totale de cette ligne pour 2030. Il y a quand même une volonté politique sur toute la ligne, avec des élus du Maine-et-Loire, des Deux-Sèvres et de Vendée, pour pérenniser cette ligne. C'est une très bonne nouvelle et on peut tout à fait s'en réjouir.
En revanche, aucune décision n'est prise concernant la ligne entre Thouars, Saint-Varan, Parthenay et Niort. La voie ferrée a été totalement réalisée et financée pour le transport des marchandises, mais il n'est pas possible de faire circuler des trains de voyageurs sur cette ligne. Emmanuel Charret.
En gros, on a rénové la ligne pour que les trains de fret puissent circuler à 40 km/h. Pour le moment, il n'y a absolument rien concernant les passagers. En revanche, on peut avoir une bonne nouvelle pour le fret, hein, qui est le transport de marchandises, puisque les travaux de régénération entre Niort et Saintes, et ensuite Saintes-Bordeaux, vont permettre de rouvrir au fret une ligne de circulation entre Cherbourg et Bordeaux, passant par Thouars, permettant à l'étoile ferroviaire de Thouars de retrouver de la splendeur. Ça permettra effectivement de retirer des camions des routes, hein, et de réduire le bilan carbone.
Et diminuer également le risque d'accident routier, ce qui constitue une autre bonne nouvelle. Reportage signé Dominique Hérault. L'inauguration hier matin du parc éolien de Saint-Aubin-de-Bobigny, un projet lancé en 2008 par l'ex-communauté de communes Delta Sèvres-Argent que présidait alors Daniel Amiot, présent d'ailleurs en cette fin de matinée venteuse, symbole de l'énergie déployée pour en arriver là. Il aura en effet fallu 16 ans pour aboutir à ce parc de 3 éoliennes contre les 5 annoncées initialement. Simple conseiller municipal de Jean-Claude Bonneau, maire délégué de Saint-Aubin-de-Bobigny à l'époque, Yves Chouteau, qui lui a succédé, y était favorable.
Oui, absolument. Je partageais donc un avis favorable sur ce projet, considérant que c'est un mode de production d'énergie avec un impact moindre quand même que les énergies fossiles. Et les considérations ensuite, récemment, de réchauffement climatique sur le volet carbone, en tout cas CO2, hein, c'est là qu'on se rend compte que le projet éolien, il prend tout son sens.
Face aux contraintes environnementales, les autres nuisances visuelles et sonores, et après de nombreux recours, 16 ans et 4 chefs de projet plus tard, 3 éoliennes de 150 mètres de hauteur chacune déploient donc leur pales à Saint-Thomas-de-Bobigny en direction de Nueil-les-Aubiers. Écoutez Antoine Mérier, ce dernier est également au micro-colline de Jacqueline Pinon.
On a eu plusieurs chefs de projet, moi je suis le dernier, j'ai eu la chance de pouvoir voir la construction et l'aboutissement de ces années de travail, et je dirais donc que ça reste un très beau projet qui a tout son sens dans le secteur et qui viendra alimenter finalement les foyers français en énergie propre et décarbonée. Tout repart sur le réseau, mais on peut dire qu'il alimente environ 4000 foyers hors chauffage. Ça reste un projet donc de 3 machines qui était prévu à l'origine pour 5 machines, 3 éoliennes de 3 mégawatts pour un parc total de 9 mégawatts. Il a été choisi de retirer 2 de ces machines en raison des zones humides à proximité des 2 éoliennes concernées et donc qui auraient pu venir nuire à cet habitat faune et flore dans ces zones-là. Bien évidemment qu'on préfère en fait supprimer ces deux machines plutôt qu'avoir un impact conséquent sur la biodiversité.
Développé et construit par la société Ostwind, racheté par Engie Green depuis, le coût du projet est estimé à quelque 17 millions d'euros. Le 5e job dating du Bocage bressuirait le 17 octobre à venir, avec un taux de chômage très faible, de l'ordre de 5,4%, et 3300 projets d'embauche cette année dans les entreprises du bassin d'emploi. On voit bien que la problématique du recrutement reste très forte. Pour les employeurs, ce job dating est devenu un outil d'aide au recrutement complémentaire, qui leur permet de se faire connaître et d'attirer de nouveaux talents. Alain Robin, le directeur de la maison de l'emploi du Bocage bressuirait.
Les employeurs présents sont tous satisfaits, à la fois de l'affluence, à la fois des candidats qu'ils peuvent rencontrer. Il y a des recrutements qui se font et au-delà des recrutements, il y a des contacts qui sont pris. C'est du contact direct avec ceux qui prennent la décision dans les entreprises, dans les associations, dans les structures de recruter. Et en fait, on permet à ces candidats de se confronter à ces employeurs et de voir quelles sont les attentes aussi de ces employeurs, puisque souvent, on passe par des canaux tels que des agences de travail temporaire, tels que des CV qui vont dans les entreprises. Et il n'y a pas de retour, ils n'ont pas le retour, les candidats. Là, ils les ont immédiatement. Et puis, les employeurs savent être cash, ils savent dire ce qui va, ce qui ne va pas. Ils expliquent. Et c'est bien pour les candidats et pour ceux qui nous concernent, les jeunes, d'avoir ce retour immédiat. Ça nous permet aussi de reprendre les choses, nous, derrière, et de travailler les orientations, le savoir-être, enfin, tout ce qui fait que ces jeunes pourront s'insérer dans les entreprises plus tard.
Les 4 dernières éditions de ce job dating ont été très fréquentées, avec une moyenne d'un millier de visiteurs. Des candidats qui sont invités à se préparer avant de se déplacer à Boucapôle, comme nous le précise Dorothée O'Neill, la directrice de l'agence France Travail Bressuire.
Déjà, faut pas venir les mains dans les poches, faut au moins avoir un CV. Si possible, grâce au site qui est mis en place par l'agglo, d'avoir repéré les entreprises présentes et choisies. un petit peu lesquelles on voulait voir, parce qu'on peut pas toujours voir 90 entreprises, et préparer ses arguments aussi pour pouvoir dialoguer avec l'employeur et le recruteur.
Il y a également une partie job dating inversée. Ça, c'est intéressant parce que les candidats peuvent connaître l'entreprise avant de s'y diriger.
C'est ça. Pendant 2 mois, là, à partir du tout début septembre, on va préparer quelques dizaines de demandeurs d'emploi qui ont un petit peu moins de facilité à prendre contact d'eux-mêmes avec les employeurs pour des raisons de manque de confiance ou d'autonomie, etc. Donc sur le job dating inversé, les employeurs viennent à la rencontre de groupes de candidats et présentent leur entreprise, leur poste, table après table, sans que les demandeurs d'emploi n'aient à eux aller au devant. Ensuite, l'idée, c'est qu'ils puissent se rendre sur les stands et puis rencontrer en individuel les entreprises qui leur auront le plus correspondu.
Organisé par l'Aglo 2B, France Travail et la Maison de l'Emploi, le 5e job dating du Bocage Bressuré aura lieu le jeudi 17 octobre de 14 à 18h30 à Boucapoule. Cet événement reste 100% gratuit pour les entreprises qui doivent avoir leur siège social loin de leurs établissements sur le territoire du Bocage. Les réservations sont ouvertes via le site internet dédié jobdating.aglo2b.fr. Melting Pot ce samedi à Bressuire. Ils étaient 1400 en 2021, 1800 en 2022, 2300 en 2023. Combien seront-ils? Combien serez-vous ce samedi 6 juillet pour la 4e édition de ce festival qui se déroule dans l'enceinte du château Bressuire? Un rendez-vous organisé par l'association Brochouette, une bande d'amis composée d'une vingtaine de membres âgés d'une vingtaine d'années qui veulent participer au développement du territoire en organisant des événements en lien avec ses valeurs. Maxime Grandot est l'un des responsables de ce festival Melting Pot.
On essaye de toujours allier des artistes plutôt locaux, en tout cas montants, et puis des artistes aussi donc avec Zawi, ex-membre des Thérapie Taxi. Donc on essaye d'apporter aussi cette touche plus nationale pour attirer le plus de monde.
Ouais, ça permet d'élargir le public, hein, d'avoir des têtes d'affiche. Ça permet de découvrir aussi ces artistes émergents.
Complètement, ouais. Complètement. Par exemple, l'année dernière, où on a fait venir Bécard, qui aujourd'hui tourne sur tous les gros festivals. Et puis voilà, on essaye justement de piocher ces artistes-là. Donc c'est un groupe de 3 personnes qui travaillent sur la programmation. C'est un travail de longue haleine qui commence dès la fin de l'édition précédente. Et d'ailleurs, un des programmateurs maintenant travaille dans ce milieu-là, donc ça va aussi nous aider. Et puis au fur et à mesure des années, on se crée forcément un réseau qui nous aide à programmer des nouveaux artistes.
Certains bénévoles s'occupent donc de la programmation, d'autres des sponsors, d'autres encore de la buvette, du snack, de la restauration. Cet engagement bénévole permet également de développer des compétences. Ils cultivent aussi et surtout l'amitié qui est encore renforcée avec la perte d'un des leurs, Pierre Couturier, décédé le jour de l'ascension des suites d'une maladie.
On est tous avec Pierrot pour cette année. Où justement on veut lui rendre hommage, un bel hommage, et de pouvoir justement remercier et accompagner aussi tous les cancers masculins avec l'association Movember, pour lequel on va aussi apporter des dons via grâce aussi aux festivaliers qui vont pouvoir remettre leurs consignes de gobelets à la fin de l'événement.
Ça vous motive encore un peu plus, ça donne une âme supplémentaire.
Tout à fait, une vraie force par ce passage-là qui nous donne envie de réussir et de justement garder cet esprit festif comme à son image, donc voilà, c'est ce qu'on veut.
120 bénévoles seront mobilisés ce samedi pour cette 4e édition de Melting Pot au château de Bressuire. L'ouverture des portes s'effectuera à partir de 16h30. Plusieurs animations seront mises en place en attendant le premier concert. Le prix d'entrée est fixé à 15€, 13 sur réservation via le site internet. Le festival se clôturera aux alentours de 2h du matin. L'actualité sportive, les Chamois ont repris l'entraînement hier mercredi avec un effectif d'une petite quinzaine de joueurs. Seulement 10 d'entre eux sont encore sous contrat dans l'effectif pro. Quelques joueurs de réserve sont venus compléter le groupe pour une première séance dans un flou total, puisque la DNCG a prononcé, je vous le rappelle, la semaine dernière, la relégation du club en National 2. La direction des Chamois a fait appel, mais le président Michael Hanouna, qui a mis le club en vente, ne s'est pas exprimé depuis. Hugo est dans les starting blocks, 3e du championnat de France. Le spécialiste du 5000 mètres rentre dans la dernière ligne droite de sa préparation avant les JO. Le premier tour de cette épreuve est programmé le 7 août, à partir de 11h. S'il y a finale, ce sera le samedi 10 août. L'objectif est donc d'atteindre le pic de forme. À ce moment-là, le bassiste est parti en stage à Saint-Moritz, en Suisse, cette semaine, à 1800 mètres d'altitude, comme il l'a indiqué au micro Colline de Jean Grelier.
Et là, maintenant, on a fini le cycle de volume. Donc maintenant, ça va être vraiment le travail de qualité. Donc à peu près deux grosses séances par semaine, parce qu'on doit travailler sur, on va dire, mon temps de soutien sur les allures rapides et sur ma fin de course. Donc ça va être vraiment des séances très intenses où ça va faire mal. Mais j'ai besoin de ça. Mais sinon, quand je pars d'assez haut, ça va vite venir, ça c'est sûr.
Hugo est en lice pour les JO à partir du 7 août pour le premier tour du 5000 mètres.